Vous écoutez
RMC.
Tout de suite donc, ce soir, où qu'il soit en vacances, Jérôme va trembler.
C'est terminé, un partout entre l'AS Monaco et le PSV Eindhoven.
Je pense que Wissam Ben Yedder, par exemple, va monter en puissance. J'ai trouvé décevant sur ce match-là.
Dire toi, t'es contre Monaco parce que tu les aimes pas. tu les regardes, tu dis ah, ils sont pas beaux à voir jouer.
Il y a quelques interrogations qui escortent l'AS Monaco, mais j'ai pas été déçu pour tout dire.
Mais c'est vrai qu'il faut pas toucher Monaco avec toi. Hein.
Non, mais pas du tout.
Qu'importe le match nul obtenu difficilement à l'aller, l'ASM doit et veut s'imposer.
RMC, Rotten sans flamme.
Rotten s'engage.
Et oui, Jérôme qui reste supporter de l'AS Monaco. Hein. Et donc ce soir, il devrait suivre ce match du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Match retour donc de Monaco à Eindhoven sur le terrain du PSV. Il y a eu un partout à l'aller. Donc une victoire de Monaco les qualifie. Un match nul les envoie en prolongation. Et si Monaco s'en sort, derrière il faudra affronter le vainqueur de Rangers Union Saint-Gilloise. Il y a eu 2-0 pour les Belges à l'aller. Alors Monaco joue-t-il déjà sa saison ce soir ? Pas forcément. Appelez-nous au 32-16 pour en débattre. Pas forcément selon l'entraîneur Philippe Clément. On l'écoute.
Je pense toujours au scénario positif. Mais si c'est pas le cas, ça change rien. Parce qu'il y a encore beaucoup de matchs dans le championnat. Une Coupe d'Europe qui est aussi très intéressante. Naturellement, nous sommes très déterminés pour nous qualifier. C'est maintenant un match, un final. Tu peux être le meilleur pendant 90 minutes à avoir malchance et pas qualifier. Ça, c'est possible, mais ça ne peut pas changer des choses. Nous avons l'état de physique, nous avons des joueurs qui veulent toujours jouer, et ça, c'est pour moi le plus difficile.
Alors, est-ce que selon vous, Clément joue sa saison, ou est-ce qu'au contraire, Monaco joue sa saison, ou est-ce que, comme le dit Clément, eh ben voilà, c'est la vérité d'un match, derrière il y aura quand même une Coupe d'Europe, puisque Monaco serait reversé en Europa League, il reste beaucoup de matchs pour juger une saison. 32-16 pour débattre, on est en direct d'Eindhoven avec Arnaud Valadon, l'un de nos envoyés spéciaux aux Pays-Bas. Salut Arnaud.
Salut Jean-Louis, salut Mathieu, salut à tous.
Tu vas nous parler du contexte dans une seconde, mais Mathieu, selon toi, Monaco joue sa saison ou pas?
Non, tu peux pas jouer ta saison sur un match. On l'a vu la saison dernière, ils se sont fait éliminer par le Shakhtar aussi. C'est toujours compliqué, mois d'août, des matchs comme ça, face à des équipes parfois qui sont en avance sur la préparation.
Ouais, mais l'élimination contre le Shakhtar, excuse-moi de te couper Mathieu, l'élimination contre le Shakhtar, elle a conditionné beaucoup de choses sur la saison. D'ailleurs, Kovac n'a sans doute pas résisté à ça, même si c'est quelques semaines après qu'il a été démis de ses fonctions. Ce moment-là, ce tour préliminaire, il change beaucoup de choses sur la saison.
Oui et non, parce qu'au final, Monaco est toujours en tour préliminaire. Donc, ils font comptablement la même saison que l'année d'avant. S'ils se retrouvent en tour, c'est-à-dire troisième place les deux saisons. Après, il y a eu des événements, la fin de l'ère Kovac et Clément qui arrivait. Mais quand tu regardes Monaco, où ils étaient au mois de février, rappelle-toi, au bout de quelques matchs, on disait Clément va être démis de ses fonctions, ça ne marche pas, etc. La fin de saison qu'ils ont pu faire et se retrouver à cette troisième place, parce qu'à quelques minutes près, ils auraient pu être même deuxième, si on se rappelle bien du scénario. Voilà, tu peux pas engager toute ta saison sur un tour préliminaire, parce qu'après il t'en restera un deuxième dans tous les cas. Oui. Le cursus il est vraiment long, hein. C'est pas simple, parce que d'ailleurs tu auras sûrement l'équipe belge ou les Rangers qui s'ils font un retour phénoménal de l'autre côté. Et puis après tu auras des phases de poule. Mais aujourd'hui Monaco a quand même une équipe qui est équilibrée. On l'a dit hier, peut-être mieux tard manque un joueur. Mais en championnat, ça sera un des concurrents pour la course à la Champions League. Je pense que le plus important pour eux, c'est déjà de se qualifier tous les ans et à un moment donné de rentrer dans la phase de poule directement sans passer par le tour préliminaire.
Oui, d'accord. Donc, ce qui est plus important, c'est le championnat. Et après, la Ligue des Champions conditionne pas forcément le reste.
Non, après, c'est un plus, hein, financièrement. C'est pas la même chose d'aller en Europa League qu'en Champions League. On connaît tous les revenus de cette compétition. Et la plupart des joueurs qui sont venus, c'est pour aller en Champions. Mais voilà, le tirage, il est pas simple. Là, tu joues PSV, qui est une équipe qui est habituée aussi, qui a des super joueurs.
Ouais.
Qui est pas simple. On l'a vu déjà au match aller.
Ouais.
Maintenant, voilà, il reste 90 minutes ou plus pour essayer de se qualifier. Puis derrière, tu auras encore deux matchs si jamais tu passes. Donc, c'est pas simple.
Alors, justement, allons-y sur le match. Arnaud, toi qui es sur place donc, à Eindhoven, faut s'attendre à quoi en termes d'ambiance, avec ce que tu vois autour de toi, et en termes d'opposition aussi? Le PSV à domicile est assez différent du PSV de l'extérieur.
Alors faut s'attendre à un véritable chaudron, 35 000 personnes, c'est une vraie ville de foot à Eindhoven, le PSV est le club phare, on l'oublie pas, vainqueur de la Ligue des Champions en 1988, il y a cette tradition de l'Europe, il y a cette tradition de briller, ils sont d'ailleurs un petit peu dans la même situation que l'AS Monaco, puisque la dernière fois que le PSV et Monaco ont joué la phase de poule de Ligue des Champions, c'était la saison 2018-2019, ça commence à faire, l'année dernière le PSV battu par Benfica en barrage, donc ça va être très chaud, 35 000 places déjà à 1h30 du coup d'envoi. Les maillots sont, du PSV sont déjà fortement présents dans l'assemblée. Le stade est en ville, hein. On est vraiment juste à côté de la gare. C'est très central. Donc ça vit bien. C'est encore calme au niveau des champs, hein. Voilà, c'est pour l'instant assez tranquille. On vient d'avoir à l'instant le bus de l'AS Monaco arrivé. Petite précision, parce que c'est vrai qu'en ces temps de responsabilité écologique, c'était un bus néerlandais. On n'a pas fait monter à vide un bus floqué du logo de l'AS Monaco. C'est peut-être un signe cette saison. Voilà, on verra peut-être plus ces bus faire des centaines de kilomètres pour juste un trajet hôtel stade. On a vu 400, ouais. On a vu les supporters monégasques, ils seront 400. Voilà, toujours une diaspora très forte, un monégasque prêt à se déplacer. Et je peux vous dire, on a même vu quelques maillots un petit peu particuliers. On a vu avec Maxime Tillet des maillots André Araji ou même des maillots du coréen, floqué du coréen Park Chu-yong. Donc il y a des vrais supporters monégasques qui ont fait le déplacement. Non, j'ai pas vu de Jérôme Rotten.
Ah, s'il y a des Radji et pas de Rotten, il y a un problème quand même quelque part.
Hein. Non, bah, faudra l'expliquer à Jérôme.
Oui, c'est ça. Bon, ok. Et alors, donc, sur le match, ce soir, donc, comment tu vois les choses? Philippe Clément a dit, Mathieu, hier, on est favori. Il l'a dit clairement, hein, parce que je pense que physiquement, on est au-dessus. Tu partages cette vision?
Oui et non, c'est vrai qu'ils ont bien fini la semaine dernière. Maintenant, tu joues à l'extérieur, tu joues une équipe qui est habituée. À domicile, c'est jamais simple de les bouger. Je vois pas Monaco favori sur cette rencontre ce soir, en tout cas.
Ouais, ouais. C'est vrai que c'était un peu étonnant.
Ça va être un match équilibré. Les deux équipes ont des fortes individualités, ils sont capables. Mais Monaco, pour moi, est pas au-dessus du PSV.
Tiens, mais écoute les explications de l'entraîneur monégasque sur ce statut de favori.
Favori. Ça, c'est un mot intéressant pour les journaux. Pour moi, mentalement, nous sommes les favoris. Parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain. Et ils ont l'avantage de jouer chez eux avec leurs supporters. Nous voulons montrer que nous étions la meilleure équipe dans les deux matchs. Nous étions pendant le premier match. On essaye d'être dans le deuxième match aussi la meilleure équipe.
Voilà. Il les voit au-dessus physiquement. Mais bon, il a envie de le voir sur le terrain. Oui, c'est sûr. Parce qu'à l'aller, on ne l'a pas trop vu quand même, Mathieu.
Non, ça n'a pas été simple. Après, deuxième mi-temps, c'était mieux. Mais au début du match, si on se rappelle bien, il y a plusieurs situations du PSV qui ouvre la marque, mais qui peut creuser l'écart un petit peu, qui a des belles situations. Voilà. Après, encore une fois, l'extérieur, c'est pas pareil. Ça sera pas la même ambiance. Ça sera pas la même façon de jouer du PSV à domicile qu'à l'extérieur. C'est une équipe qui risque d'emballer le match avec des joueurs offensivement très, très intéressants. Maintenant, Monaco, ils sont capables de le faire. Voilà. Voir quelle équipe va être alignée. Mais même sur le banc, t'as des joueurs qui sont capables de faire des grosses différences. Le tout, c'est de pas prendre pour moi, en tout cas, un but trop vite dans cette partie. Et pourquoi pas marquer pour faire douter le PSV. Mais maintenant, avec le nouveau système, voilà, ça change beaucoup de choses aussi.
On va parler compo d'équipe dans un instant avec Arnaud. Mais d'abord, Mickaël nous rejoint, supporter de Monaco, 32-16. Salut, Mika.
Ouais, salut. Salut à tout le monde.
T'as un maillot Radji ou Rotten chez toi?
Eh ben, les deux.
C'est bien.
Les deux, ouais.
C'est marrant, Radji, la cote qu'il a gardée.
Bah, c'est un gars qui mouillait le maillot. Alors, c'était pas le plus technique, c'était pas le meilleur joueur qu'on a pu avoir. Mais par contre, lui, il avait de l'envie. Et puis, il y a eu des saisons où ça nous a fait un peu défaut. Donc, d'avoir un joueur comme ça, c'était rafraîchissant, je dirais.
Ouais, ouais. Et alors, le match ce soir, tu le vois comment? Tu penses que Monaco joue sa saison ce soir?
Alors, joue sa saison, je dirais peut-être pas ça, parce qu'on a vu que l'an dernier, on s'était mis une grosse pression. Et l'élimination nous a coûté toute la première partie de saison en fait. Donc cette année, on est un peu plus serein peut-être, je dirais bizarrement. On a l'impression d'être prêt, même si le match aller c'était pas forcément exceptionnel. Maintenant, on a repris très tôt avec une grosse prépa physique justement pour se préparer sur tout ça. Et le match contre Strasbourg avec l'équipe bis, je dirais, nous a un peu rassurés. Et maintenant, à nous de faire la différence. J'espère que Ben Yedder et Volante seront au niveau, contrairement au match aller. Et attention à la douche froide, mais si tout va bien, normalement, ça devrait pouvoir passer.
Alors, est-ce qu'on a des tendances sur la compo d'équipe, Arnaud?
On a même mieux, Jean-Louis. On a les compos qui viennent à l'instant de tomber sur le site de l'UEFA, tu sais. L'UEFA, c'est ils prennent un peu plus de temps que la Ligue française. Et petite surprise avec Maxime Tillet, c'est quasi les mêmes 11 à la fois côté PSV et à la fois côté Monaco. Donc ça donne nouvelle dans les buts.
Vous n'avez pas ouvert la fiche du match aller.
Non, on a, c'est ce que Maxime m'a dit. Non, on est sur le site de l'UEFA, sur les compos. Donc Vanderson, Maripán, Dizazi et Jacobs en défense. On retrouve Matadzo, Fofana à la récupération. Minamino qui revient. Vous savez, il était un petit peu blessé à Strasbourg. Il n'avait pas joué. Et ben, il est titulaire, vraisemblablement à droite. Golovin à gauche. Et Voland et Ben Yedder de retour. Ben Yedder capitaine, ménager à Strasbourg. Philippe Clément avait effectué plus de 6 changements. Donc pas de crépa Diata qui, avec son magnifique but, eh ben, on disait peut-être qu'il allait pouvoir se faire une place dans le 11. Et côté PSV, on
parle également... Et Caillou Henrique, il ne devait pas revenir. C'est toujours Jacobs qui joue.
Ouais, c'est toujours Jacobs, Caillou Henrique, qui était effectivement annoncé potentiellement titulaire. Il revenait, il était apte, il était dans le groupe. Mais selon ce que l'UEFA nous communique à l'instant, il est sur le banc, tout comme Brahim Bolo, Diata, Aguilar aussi sur le banc. Et côté PSV, on reste également avec un 4-3-3, pas forcément plus offensif. Ce week-end, lors de la victoire du PSV contre le promu MN 4-1, on avait vu que Xavi Simons titularisé en position de 10. Visiblement, on reste avec 3 milieux dont tu points de base. Avec Thiel, pas forcément de numéro 10, et 3 attaquants, Luke de Jong, Gakpo, attention à lui, il a marqué un doublé, notamment un des atouts majeurs offensifs du PSV, et Sebari à droite pour les 3 attaquants, et Walter Benitez évidemment dans la cage.
Mathieu, t'en penses quoi de cette compo monégasque?
C'est compo logique pour moi. Tu parlais de Diata, maintenant il ne faut pas oublier qu'il revient d'une longue blessure, il ne faut aussi le cramer, lui mettre trop de temps de jeu dès le début de saison. Ouais, il a fait un bon match ce week-end. Après, il est capable de rentrer en cours de jeu. Ça laisse quand même des belles perspectives sur le banc de touche aussi pour pouvoir faire la différence en cours de match.
Moi, c'est Caillou Henrique qui m'étonne, mais il est peut-être pas revenu vraiment du Covid. Il avait Caillou Henrique.
Ouais, je pense qu'il est pas prêt, sinon il aurait joué. Ouais. C'est un élément important de cette équipe. Avec un profil différent de Jacobs, qui doit être un peu plus contre-attaquant par rapport à ses qualités athlétiques. Lui est capable de faire les efforts, de les répéter à haute intensité. Ouais. Caillou Henrique avec le ballon, c'est un peu plus de certitude. Mais s'il n'est pas là, oui, c'est qu'il doit pas être à 100%.
Et au moins, tu sais quand même, enfin, je trouve que c'est une des forces de Monaco, c'est le banc de touche. Entre ce que tu as vu à Strasbourg et dans le passé des différents joueurs, tu sais qu'il y a un moment où, quand tu lanceras les remplaçants, tu pourras aussi être toujours performant.
Oui, tu perds quasiment pas au change avec des profils complètement différents. On parle d'Embolo, on peut parler de Diop, on peut parler de Crépin Diata et ainsi de suite. Ça amène quand même des bons profils offensivement avec des joueurs capables de faire la différence dans les petits espaces. Mbolo, il peut garder le ballon un peu plus haut, il peut prendre la profondeur. Voilà, t'as quand même un effectif de grande qualité. On l'avait dit, offensivement, beaucoup de joueurs, peut-être même un peu trop.
Ouais.
Mais voilà, c'est
justement comme ce ça peut être important. Vu la compo, il n'y a pas un petit manque dans la profondeur? En plus, t'es à l'extérieur, t'as pas beaucoup de joueurs qui se projettent là, non?
Non, c'est vrai que Ben Yedder est capable de le faire dans les 20-25 derniers mètres sur des petits appels en profondeur court, pas obligatoirement si la défense adverse joue autre. Mais parce que je pense que Monaco veut avoir un peu de possession et peut-être terminer justement le travail sur les 25 dernières minutes.
Mickaël, t'inspire quoi cette compo? Ça te plaît?
Ouais, bah, je pense que c'est un peu tout comme vous, en fait. Un peu surpris par Caio Henrique, mais effectivement, il est peut-être pas prêt. Jacobs a l'avantage qu'il est vraiment rapide et on a une défense plutôt lente, donc ça peut compenser ça aussi. Et après, sinon, je vous rejoins, je pense que avec un bon coaching et tous les joueurs offensifs qui peuvent rentrer en deuxième mi-temps, ça peut faire la différence.
Mickaël, merci et bon match ce soir.
Merci beaucoup.
Allez, à très vite sur RMC. On donnera la parole à Tom, autre supporter monégasque, dans une seconde. On continue de lancer la soirée et le match de Monaco sur le terrain du PSV dans une seconde. On donnera les infos mercato du jour également dont on n'a pas pu parler. Il y a une grosse vente à Lille, notamment, qui a été officialisée. Et puis on ira à Marignane, à l'aéroport à Marseille, où les supporters sont en train de se rassembler pour accueillir Alexis Sanchez. À tout de suite sur RMC dans Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
19h15 en ce mardi soir dans Rotten sans flamme, sans Jérôme Rotten mais avec Mathieu Bodmer. On parlera de Nantes à 19h30 dans le ring des supporters. Faut-il redouter la saison galère pour le FC Nantes? Plusieurs arguments pour cela. 32-16, supporters de Nantes pour en parler. Pierre-Yves Leroux sera avec nous, notre correspondant dans l'Ouest, tout à l'heure. Le quiz également à 19h45. Mais pour l'instant, on est sur Monaco. Les Monégasques jouent-ils déjà leur saison ce soir? Déplacement à Eindhoven face au PSV en troisième tour préliminaire. Retour de Ligue des Champions. Il y a eu un partout à l'aller. Si Monaco passe, il y a encore une confrontation en barrage face au vainqueur de Rangers Union Saint-Gilloise. Et on va donner la parole à Tom qui nous rejoint au 32-16, supporter de Monaco. Salut Tom.
Salut.
Alors,
salut l'équipe.
Pour toi, au contraire de ce qu'on entend depuis tout à l'heure, Monaco joue sa saison ce soir.
Moi, effectivement, pour moi, on joue la saison ce soir. Pourquoi ? Parce que ce soir, si on s'incline face au PSV, on s'assure d'avoir un mercato qui ne sera pas abouti, dans le sens où on a des recrues au milieu de terrain qui, je pense, sont conditionnées à cette qualification. Pareil en défense. On parlait d'Eric Bailly il y a pas très longtemps de ça. Donc, effectivement, si ce soir, on s'incline, à mon avis, l'équipe va rester telle qu'elle, avec quelques petites retouches, avec peut-être des jeunes par-ci, par-là, mais rien de concret. Et on s'assure... saison compliquée. En tout cas, on va faire la même chose que l'année dernière. Peut-être milieu de tableau pour remonter sur la fin, mais on ne va pas s'assurer une qualification en Champions League l'année prochaine. Pas l'Europa. Monaco ne veut pas jouer l'Europa League. On veut jouer la Champions League à chaque fois. S'assurer avec un petit mercato de Champions League, je ne pense pas que ça va passer. Surtout avec le niveau qui monte, Nice qui monte, Paris qui est monté, Marseille qui va monter. Ça va être encore plus compliqué que l'année dernière.
Oui, alors c'est sûr que ça joue sur la fin de mercato, même si il y a encore le barrage derrière et il y a peu de temps après sur la fin du mercato, Mathieu.
Oui, t'as peu de temps après. Sur la partie financière, je suis d'accord. Une qualification de champion, c'est complètement différent de l'Europa League. Ça permet d'avoir plus de moyens et d'attirer même des joueurs, peut-être d'un calibre différent à si tu fais que le championnat de l'Europa League. Maintenant, pour Monaco, je le redis, moi, toute la saison ne dépend pas de ce soir. Voilà, tu peux avoir une fin de mercato peut-être plus excitante, mais quand tu fais Minamino, Mbolo et que tu gardes quand même tes meilleurs joueurs, hormis le départ de Tchouaméni, mais qui était plus ou moins acté, si tu arrives pour moi à prendre un quatrième défenseur pour venir derrière Badiachil notamment et essayer de remplacer par quelqu'un au milieu de terrain, tu auras une équipe qui sera encore une fois compétitive.
Ouais, ouais, non, ça c'est clair. Tom, merci, tu voulais ajouter un truc ou c'est bon, t'es chaud pour ce soir?
Simplement, là on perd Tchouaméni cet été. On ne le remplace pas, on n'a pas un remplacement d'envergure en fait. Derrière, on va piocher avec des jeunes de la formation, avec Matazzo par exemple. Mais on n'a personne pour le remplacer. On a un énorme manque au milieu. La défense, je rejoins l'auditeur précédent qui disait effectivement qu'elle était très lente. Et c'est vrai qu'on subit en fait à chaque fois des attaques derrière. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Moi, je ne vois pas une saison... de qualité si on ne recrute pas des joueurs d'envergure. Et les joueurs d'envergure n'arrivent pas si on ne se qualifie pas en Champions League. Et c'est pareil, la Champions League, elle amène pas le même budget non plus au club. Donc l'Europa League, d'accord, mais le budget derrière, ça ne ressent pas. Et si je peux juste passer un dernier message d'infrastructure, on va dire, par rapport à l'AS Monaco, on veut jouer la Champions League, mais au niveau du stade, on a un stade qui dépérit d'année en année et le club et la principauté ne veut pas mettre d'argent sur le stade. Et ça, par contre, c'est vraiment un manquement et une image. L'AS Monaco qui joue sur son image, là-dessus, vraiment, on est ridicule. Quoi. On est ridicule. Voilà, c'était simplement ce message-là ouais. que je voulais passer. Mais en tout cas, il faut gagner ce soir pour s'assurer une belle saison.
Et bah, ok, merci. Tom. Merci d'être venu au 32-16. Le message est passé. Et,
merci
écoute,
beaucoup.
Si tu veux rappeler, tu peux rappeler ce soir dans l'after, hein, puisque là, il y a une grande soirée autour de la rencontre, l'avant-match à 20h avec Nico Villas, le match en intégralité avec Arnaud Valadon, Maxime Tillette et le débrief ensuite jusqu'à minuit dans l'after. Alors j'ai quelques infos mercato, Mathieu, que tu vas pouvoir commenter. Donc je parlais d'une grosse vente pour Lille puisqu'Everton a officialisé aujourd'hui l'arrivée d'Amadou Onana. On parle de 40 millions d'euros hein, pour le transfert.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal, ouais.
C'est une belle plus-value pour une saison. Il a pas toujours joué titulaire.
Et en plus,
c'est un super coup de la part des dirigeants lillois. Voilà. Après, quand ils ont été cherchés, je pense qu'ils savaient la valeur qu'il avait déjà sur le marché, que c'était qu'une étape pour lui et qu'il avait un profil taillé pour la première ligue. Parce que beaucoup le comparent, notamment à Yaya Touré.
Ouais.
Toute proportion gardée. Mais voilà, c'est un gros coup de la part des dirigeants lillois, voir comment maintenant ils vont utiliser cet argent.
C'est toujours étonnant, là. Il y a une part de spéculation quand même, parce que le joueur t'a pas amené beaucoup de choses sportivement. Tu disais, il a peu joué l'année dernière, et pourtant, t'arrives quand même à en faire une plus-value, à faire une belle vente. Parfois, on déconnecte un peu le sportif du financier.
Parce que c'est un potentiel. C'est un jeune joueur, 21, 22 ans, il est 2000, je crois, si je dis pas de bêtises. Qui a déjà une expérience comme du haut niveau, qui a fait quelques matchs intéressants avec le LOSC. Maintenant, dès que tu as les clubs anglais qui rentrent aussi, souvent ça dérègle un petit peu le marché sur des clubs que nous, peut-être, on considère pas comme gros clubs en Angleterre,
ouais.
mais qui ont quand même une manne financière qui est différente de ce qu'on peut voir en France.
Ouais, ouais. Alors, toujours en France, donc, y a plusieurs clubs qui sont intéressés par Fabien Santonze, le latéral du FC Metz. On parle même de deux clubs français, Lyon et Rennes. et de deux clubs espagnols, l'Atlético et Villarreal pour lui, 26 ans. Voilà, et Metz serait prêt à le laisser partir avec un prêt avec option d'achat. C'est nos confrères de Foot Mercato qui parlent de cette info. C'est une bonne pioche, Fabien Santonze.
Oui, moi j'aime bien. Moi j'aime bien le joueur. Après, voir à Lyon, je pense que ça peut être en doublure de Malo Gusto. À Rennes, peut-être dans un profil un peu différent, en attendant de voir la situation de Traoré. Et l'Espagne, ben, c'est encore un autre niveau. Si c'est des clubs cités et qu'il y a quelque chose à faire là-bas, pourquoi pas tenter l'aventure à l'étranger pour lui et aller dans des gros clubs qui jouent la Coupe d'Europe aussi.
Tu le sais, il y a quelque chose qui est très scruté au PSG lors de cette intersaison, ce sont les départs. Est-ce que Luis Campos va être capable de faire partir certains joueurs? West Ham aurait transmis une offre au PSG pour Thilo Kehrer. C'est Sky Sport qui sort ça. Kehrer, il lui reste un an de contrat. Et voilà, on n'a pas le montant en tête. On ne sait pas si ça va faire, mais visiblement il y aurait un intérêt de West Ham. Faut sauter sur l'occasion.
Oui, faut essayer de trouver une porte de sortie un an de la fin du contrat, sinon après le joueur est libre. Il avait recruté quand même assez cher à l'époque, 35 ou 37 millions d'euros de mémoire. Voilà, si t'as une offre cohérente, je pense qu'il faut pas hésiter à le vendre, à faire des concessions un peu financières, parce que il jouera pas ou peu dans cet effectif du PSG cette saison.
Et on en parlait tout à l'heure en première heure, hein, vous l'aurez en podcast d'ici quelques minutes, mais on parlait de Paredes à la Juve, ça pourrait aussi s'accélérer dans les jours qui viennent. Et toujours, puisqu'on est à l'étranger, on parlait de West Ham, alors à Chelsea, peut-être une nouvelle offre bientôt pour Wesley Fofana, qui pourrait devenir l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire si le transfert venait à se faire. Là aussi, trajectoire étonnante pour Fofana. Hein.
Oui, après, bon, il avait déjà été acheté cher par Leicester à l'époque, justement sur un potentiel.
Ouais.
Mais ce qu'il a fait en Angleterre avant d'être blessé depuis son retour de blessure, c'est du très haut niveau. Et je pense que tout le monde l'a vu en Angleterre. Là, tu paries sur un jeune défenseur qui est capable de faire beaucoup de choses, de relancer, de défendre un contre un, bon de la tête, qui est capable de prendre la profondeur, qui aime défendre. Ça aussi, c'est important. Et pour le championnat anglais, je pense qu'ils sont... Ils sont pas fous. Après, financièrement, je le dis encore une fois, ils sont capables de faire des choses que nous, on n'imagine même pas.
Ouais, bien sûr. Et puis, alors, il y a énormément d'infos qui circulent autour du Barça. Donc, bon, on va essayer de rester assez prudent quand même sur tout ce qui se dit. Visiblement, ce qui bruisse en ce moment, c'est un accord pour Bernardo Silva, pour l'arrivée du joueur de Manchester City, pour une somme autour de 80 millions d'euros. Mais bon, comme ils n'arrivent pas à inscrire certains joueurs, il faut voir comment ils arriveront à se sortir de ça. Enfin, je sais pas, tous les jours, on entend un nouveau joueur.
Ils font de la magie.
On entend la dette, on entend qu'ils peuvent pas inscrire de joueurs et pourtant, ils enchaînent les recrues. Bon.
Mais je suis content parce qu'il y a quelques mois, on avait parlé d'Ousmane Dembélé, il a prolongé. T'empêches, j'en avais parlé.
Ouais, bien sûr. Il a prolongé. Ça a été un long feuilleton aussi, mais il a prolongé. Mais bon, ça après, forcément, t'es un bien informé. Tous les joueurs du Jubilé Bonner, t'as les infos quand même. Hein. Il va faire quoi, Ludovic Blas, d'ailleurs?
Bonne question.
Non, mais on va en parler dans un instant avec Pierre-Yves Leroux à Nantes. Et oui, Ludovic Blas fait partie des stars du Jubilé Bonner. En plus de Mathieu, bien sûr.
Oui, il y en avait plein d'autres.
Il y avait
8 tours dans les buts. Quel niveau incroyable.
Ah, mais bon,
t'es meilleur que sortir de gardien pro.
Tu m'as promis un contrat, j'attends toujours.
Je t'ai pas dit dans quel club.
Ouais, c'est vrai, mais je suis toujours au média, tu sais, du coup. Ça a un peu bougé.
C'est déjà bien.
Ouais, c'est déjà bien. Les infos mercato sont toutes sur rmcsport.fr, bien sûr, hein, vous pouvez retrouver tout ça. Il y a même des infos sur Le Havre, parfois, qui tombent, hein, sur notre site internet, hein, voilà. Je sais pas s'il y a. Il y a un gros coup, là, en préparation, là. Il y a une annonce à faire, peut-être, Mathieu?
Non, pas encore. On travaille toute la journée encore, et puis ce soir.
Très bien. Voilà, donc supporter à vrai, on est désolé. Il n'y a pas d'infos là, de la part de Mathieu, mais bon.
Bientôt.
Suivez le site du club, ça peut tomber à n'importe quel moment, hein, grâce à Mathieu et à toute l'équipe qui bosse autour de lui, évidemment.
Merci.
Dans une seconde, le FC Nantes. Faut-il redouter la saison de galère? On vous donne la parole, supporter nantais au 32-16, et on sera à Marignane à l'aéroport où les supporters sont en train d'arriver, les supporters marseillais, pour acclamer l'arrivée d'Alexis Sanchez. À tout de suite dans Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.